Thomas Schneider prend la parole. S'il vous plaît, prenez vos classes parce que nos invités vont bientôt arriver. Nous avons une réunion. S'il vous plaît, prenez place. Nous allons aborder la question des principes opérationnels. Nous allons attendre 2 secondes jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé. Comme vous le savez, nous avons eu samedi certaines discussions. Nous en avons eu hier encore des discussions. Et nous allons poursuivre aujourd'hui ces discussions sur un document préparé par le groupe de travail. Aujourd'hui, nous devrions prendre une décision par rapport à la façon dont nous allons appliquer ces changements aux principes opérationnels, si nous allons les appliquer. Donc la proposition que vous avez sur le document... Après avoir pris en compte les discussions que nous avons eues, donc ce document reflète donc l'idée selon laquelle il faut que l'on passe en revue tous les principes opérationnels, car il y en a qui peuvent être un peu, qui doivent être mis à jour. Nous avons vu qu'un certain nombre de membres pensaient que certains changements devraient être accordés dans cette réunion afin que cela nous permette de corriger le processus d'élection, c'est-à-dire le changement du nombre de vice-présidents. Il y a différents points de vue qui sont différents. Donc, en ce qui concerne cette proposition, à savoir... pour voir si on pouvait... donc étendre le nombre de vice-présidents et quel serait l'impact de ce changement sur les discussions futures sur la représentation régionale et la constitution des régions. Ce que je veux vous proposer, et j'espère que cela pourrait être satisfaisant pour tous, je vous propose donc de nous mettre d'accord sur la procédure pour changer les procédures d'élection tel que Michel vous l'a présenté. Et en ce qui concerne le nombre de vice-présidents, appliquer les changements qui avaient été proposés. Ma proposition donc serait de ne pas faire aucun autre changement par rapport à la diversité ou l'équilibre au niveau du genre. On changerait uniquement le nombre de vice-présidents de 3 à 5. De cette manière, nous pourrions éviter le problème de rentrer dans des discussions plus approfondies. Et nous éviterions des problèmes pour les prochaines élections. Et nous pourrions, à ce moment-là, continuer notre discussion par rapport aux autres sujets dans nos prochaines réunions. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, de remplacer... tout simplement le numéro 3 par le numéro 5 et ne modifier aucun autre élément par rapport au vice-président. C'est la proposition que je fais. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Très bien, j'attends vos commentaires. Commission européenne, s'il vous plaît. Commission européenne prend la parole. Merci beaucoup. La Commission européenne est tout à fait d'accord avec vous par rapport à cette question. Le minimum que l'on devrait faire, c'est que l'on se mette d'accord sur les règles de votation. Pour être sûr que l'on applique la procédure correcte, je crois que Michel pourrait nous aider à bien faire les choses. Non pas en appliquant des changements de fond, mais peut-être en le rendant plus clair et en le mettant à jour. Thomas Schneider prend la parole. Merci, Commission européenne. Y a-t-il d'autres commentaires? La Colombie. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec votre proposition. Nous pensons qu'il est important de commencer à appliquer des changements au nombre de présidents. Le fait de passer de 3 à 5 vice-présidents permettrait de faciliter le travail que le GAC doit réaliser. Conformément à la suggestion de ne pas inclure aucune modification au niveau de la diversité de genre ou la diversité géographique, nous pensons qu'on peut agir ainsi dans une première étape, parce que nous ne pouvons pas assurer que nous allons avoir une représentation égalitaire au niveau des candidats. Donc, nous pensons que le changement du nombre de vice-présidents, comme seul changement, c'est très bien. En ce qui concerne la procédure, il est important que l'on puisse avoir des règles transparentes et claires pour tout le monde, afin que l'on ne voit pas se reproduire la situation que nous avons traversée à Los Angeles. Nous soutenons le vote électronique comme moyen de procéder quand on n'a pas des réunions en face à face. Merci. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Le Singapour. Singapour prend la parole. Merci, Monsieur le Président. En principe, nous n'avons pas de problème pour augmenter le nombre de vice-présidents de 3 à 5. Nous voulons tout juste soulever une question. En augmentant le nombre de vice-présidents à 5, nous sommes confrontés à la question de la diversité géographique et de l'équilibre géographique, parce qu'il pourrait y avoir la situation où un pays qui vient d'une région particulière veut participer dans l'élection, et puis si l'on n'a pas un mécanisme pour assurer l'égalité de représentants de chaque région, cela peut finir dans une situation où on peut avoir 2 membres d'une même région. Donc il faut voir comment nous pouvons faire pour assurer un mécanisme qui soit équitable. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. Vous avez raison. Il faut que l'on puisse définir de manière très claire quelles sont les régions qui ont eu un rôle au niveau des élections jusqu'à présent. Je pense que c'est une question complexe et nous allons devoir nous pencher là-dessus un peu plus en profondeur. Il y a des gens hier qui ont dit que tout d'abord, il nous faut analyser quelles seraient les régions. On a un petit peu le sentiment que la composition actuelle des régions ne fonctionne pas tout à fait pour les élections, donc il faut se pencher là-dessus. Là, c'est tout à fait clair. Et donc, j'ai l'Égypte. L'Égypte prend la parole, merci. Mes commentaires rejoignent ceux qui ont été manifestés par le Singapour. J'ai tendance à vouloir appliquer une approche globale, mais si l'avis des collègues du GAC préfère se pencher d'abord sur les questions liées au vote, je serai d'accord pour accepter cela. Nous soutenons bien sûr l'augmentation du nombre de vice-présidents, mais nous devons travailler sur la question de la représentation régionale parce qu'on pourrait finir avec 5 vice-présidents de la même région. Thomas Schneider prend la parole. Oui, mais cela dépend aussi de ce que votent les gens. Il y a aussi la responsabilité des membres du CAC qui votent pour ne pas le faire pour 5 membres de la même région. Le Danemark prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien écouté les remarque des personnes qui nous ont précédés aujourd'hui et nous pensons que, comme minimum, 5 vice-présidents pourraient. On pourrait être d'accord avec 5 vice-présidents comme minimum, sachant que cela devrait être modifié en tenant à l'esprit ce que l'Égypte vient de dire. Je voulais tout juste dire que, bien sûr, nous soutenons ce changement à 5 vice-présidents et qu'il faudra donc que les règles concernant la votation doivent être mises à jour en ligne avec ces changements, comme la Commission européenne l'a dit. Les États-Unis prennent la parole. Merci beaucoup. Merci aux collègues qui m'ont précédé. Je pense qu'on reconnaît que d'un côté, il est utile d'appliquer ce changement administratif pour augmenter le nombre de vice-présidents. Mais cela ne résout pas la question des objectifs concernant la diversité et la représentativité régionale. D'autre côté, il y a la question de savoir que le fait de parler des élections nous amène à nous poser la question de qui se porte candidat dans ces élections. Et je voudrais attirer l'attention des gens ici, très brièvement, sur les commentaires de nos collègues de la Ligue de Pays Arabes, leur demande de changer leur statut. Et après avoir parlé avec d'autres collègues des OIG, je pense que cela nous permettrait d'appliquer une approche globale et essayer de revoir l'ensemble des principes opérationnels. Les principes 15 et les principes 18 sembleraient suggérer que nous sommes ouverts à l'adhésion d'organismes intergouvernementaux et observateurs. Mais il semblerait que il y aurait un élément de discrétion de la part de la présidence du GAC, ce qui pourrait nous amener à penser qu'il y a un statut lié à des membres et qu'il faut une approbation ou une invitation du président pour pouvoir participer. Et je pense que de notre part, il n'y a aucune hésitation pour avoir une représentation des OIG de manière complète. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, les principes opérationnels en ce qui concerne l'adhésion des membres ne sont pas très clairs, ne sont pas très précis. Ils utilisent une terminologie qui n'est pas très claire et donc les gens ne comprennent pas très bien quelle est la distinction entre un observateur et un membre, à moins que l'on regarde les principes 15 et 18, et cela peut expliquer l'hésitation de certaines OIG d'accepter le statut d'observateur. Je crois qu'il est important de travailler là-dessus. Si nous nous mettons d'accord sur uniquement le nombre de vice-présidents, c'est bien à court terme, mais c'est inévitable que l'on fasse une révision complète de tous les principes opérationnels. Il y a une annexe attachée à ces principes opérationnels et qui propose des modifications. Je pense que c'était l'Espagne ou le groupe de travail sur les groupes de travail. Je ne sais pas si ces modifications proposées ont été examinées et ont fait l'objet d'un accord. Donc, au minimum, il faut se mettre d'accord sur la manière dont nous allons procéder pour la modification ou l'amendement des principes opérationnels. Je vais m'arrêter là, mais je pense qu'il faudrait se mettre d'accord avant la fin de la réunion d'aujourd'hui. Thomas Schneider prend la parole. Merci les États-Unis. Et bien sûr, je suis d'accord et je pense, comme tous ici, qu'il nous faut être plus clairs. Personne ne propose de faire une révision complète ici. Nous pouvons décider aujourd'hui si nous allons faire de la sorte. Mais la question est de savoir quelle sera la procédure à appliquer, si c'est celle proposée par le groupe qui a travaillé sur les méthodes de travail. Et l'autre question, c'est que si nous nous mettons d'accord maintenant pour un changement, il nous faudra être très clair, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. il faudrait se mettre d'accord par rapport à ce que nous allons changer aujourd'hui et ce que nous pourrons changer dans l'avenir. L'Allemagne prend la parole. Merci. Je voulais soutenir votre proposition. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et vu la situation, c'est la seule possibilité pour un futur proche. Dans l'avenir, il nous faudra bien sûr considérer de manière complète, examiner de manière complète les principes opérationnels. Mais je pense qu'il nous faut prendre une décision. Et je voulais revenir à la question de l'équilibre géographique et l'équilibre au niveau du genre. À mon avis, il n'est pas possible de respecter cela à 100%. Et puisque certains collègues ici participent à l'UIT, il y a 5 personnes. Et donc, il y a une question d'équilibre géographique, mais dans les faits, il n'y a jamais 100%. Ça ne se respecte pas à 100% parce que il y a parfois une région qui n'est pas représentée ou deux régions ou une région qui a deux représentants. Donc, les réunions vont changer. Mais ce n'est pas une règle fixe ou formelle. Je comprends que c'est un objectif, cet équilibre, c'est un objectif. Bien sûr, nous devons le considérer, mais je n'insisterai pas à le formaliser parce que c'est un peu compliqué. Je vous rappelle que maintenant, nous avons 5 vice-présidents et un vice-président supplémentaire. Cela veut dire qu'on a 6 personnes qui sont engagées dans le travail du GAG. C'est-à-dire que si nous procédons à des élections, nous allons devoir avoir un grand nombre de candidats. Est-ce que cela, c'est faisable? Donc, nous avons donc une situation où il y a beaucoup de gens qui sont engagés à bien travailler. C'est déjà bien. Et cela, je ne pense pas qu'il y ait trop de restrictions par rapport à cela. Thomas Schneider prend la parole. Merci, l'Allemagne. L'Égypte. L'Égypte prend la parole. Je veux dire que si nous appliquons donc ce changement pour les élections, c'est bien. Il nous faut identifier quels sont les articles qui doivent être modifiés pour les prochaines élections. Comme je vous ai dit, ce n'est pas uniquement une question de clarté. La clarté est certes importante, mais il faut surtout que l'on arrive à être plus clair que dans les premières élections que l'on a eues. C'était nos premières élections, c'était bien à l'époque, mais maintenant que cette étape a été franchie, il nous faut des règles plus claires pour savoir vers où nous avançons. Car si nous considérons la distribution géographique, mais que ensuite est-ce que les votes vont remplacer cette décision que l'on a prise par rapport à la région géographique? On peut voter plusieurs candidats d'une même région ou bien si on a plusieurs candidats, ces candidats doivent représenter les différentes régions. Il faut en débattre. Même si nous allons appliquer une révision très ciblée. Thomas Schneider prend la parole. Si nous ne faisons rien maintenant, le texte reste tel qu'il figure dans les principes opérationnels maintenant. Si on ne se met pas d'accord pour appliquer ces changements maintenant, c'est le texte que nous avons et il va falloir s'en servir. Voilà le texte que dont nous disposons maintenant. Ce que je veux dire, c'est que en ce qui concerne cette révision globale ou générale des principes opérationnels, la Commission européenne a dit si quelqu'un veut faire des commentaires, on pourra en faire pour modifier les principes opérationnels. On peut demander à ce qu'il y ait des ajouts ou éliminer certaines parties et on pourra se fixer un délai pour faire ce travail. Nous pouvons commencer dès maintenant. Je pense que que tout le monde est d'accord sur le fait que nous souhaitons mettre en place cette révision. Il faudra voir ce qui se passe dans la prochaine réunion, mais cela ne affectera pas le vote à Dublin, parce que nous n'aurons pas fini cette révision complète des principes opérationnels. On l'aura peut-être dans 2 ans ou dans les élections ultérieures, mais nous pouvons commencer par faire une première série de commentaires sur les principes opérationnels. C'est la meilleure façon, à mon avis, de travailler sur les principes opérationnels. Il y a ici 2 changements qui sont proposés. D'un côté, le changement que vous voyez sur l'écran où l'on propose de supprimer la question relative à la diversité de genre et la diversité linguistique que l'on garde uniquement jusqu'à 5. Est-ce qu'on peut modifier le document sur l'écran? On mettrait jusqu'à 5 au lieu de 3 vice-présidents. Et puis, Michel, est-ce que vous pouvez passer en revue les modifications proposées pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on propose? Michel Scott-Tucker prend la parole. Julie, est-ce que tu peux faire défiler le texte sur l'écran? Ce que je suggère, la phrase clé, c'est celle qui est en rouge, où l'on dit principe 35, et qui dit « Les votes peuvent être émis par un mécanisme sécurisé de vote en ligne ou d'autres mécanismes considérés appropriés par le GAC. » En réalité, le GAC peut décider quel mécanisme sera utilisé pour les élections de Dublin. La dernière fois, je vous ai fait parvenir un document préliminaire où l'on établissait les principaux points, les informations les plus importantes. Je vais vous envoyer donc un document préliminaire où tous ces processus seront décrits afin que vous nous donniez votre avis pour voir quels sont les points que l'on doit modifier afin de nous mettre d'accord sur le processus des élections. Cela ne devrait pas figurer sur les principes opérationnels. Les principes opérationnels sont des principes vraiment très généraux. Et dans les prochaines élections, il y aura peut-être un changement. Et à ce moment-là, pour cette élection ultérieure, on ne sait pas si ce sera l'élection de président ou vice-président. Et donc, ce que je suggère, c'est que on ajoute cette idée selon laquelle on peut utiliser un mécanisme de vote sécurisé en ligne. Je vais vous envoyer ensuite un document où l'on décrit ce processus, un document que vous allez pouvoir commenter. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je tiens à vous rappeler que dans quelques minutes, nous allons avoir une présentation. Je vous suggère de continuer à parler de cela après les 2 présentations que nous allons avoir si on n'arrive pas à une conclusion maintenant. Avant de donner la parole aux États-Unis et à Trinité et Tobago, je voulais donc dire que selon le principe 53 des principes opérationnels, on fonctionne avec une majorité simple pour lancer une révision avant la période de 60 jours. Et puis, il nous faut une majorité simple pour nous mettre d'accord sur la révision des principes opérationnels. On pourrait peut-être changer cet aspect-là aussi au niveau des principes opérationnels. Mais c'est ce que nous avons maintenant. Trinité et Tobago prend la parole. Le principe 34 sera également affecté par cela.
Le principe 34 dit pour les élections, il doit y avoir un vote secret. Et chacun des membres devra décider s'il souhaite que son vote soit rendu public ou pas. Ceci inclut faire le vote personnellement ou à travers le courrier électronique. Le secrétariat du GAC organisera la procédure de vote et fera le scrutin des votes sous la supervision de la présidence ou des vice-présidences qui ne soient pas présentés à la réélection. Je crois que le principe 34 et le principe 35, alors? Parce que le 35 concerne le 34. Si on modifie le principe 34, il faudra modifier le principe 35 et vice-versa. Thomas Schneider, le principe 34 qui dit au cas où l'on ne serait pas d'accord de passer de 3 à 5 et les 3 vice-présidents restent, il va y avoir une élection où les 5 vice-présidents ou... C'est-à-dire, ils vont pouvoir se présenter à l'élection et ils ne pourront pas superviser l'élection parce qu'ils en feront partie. Alors, je ne sais pas si c'est censé ou pas. Voilà donc pourquoi il faut faire une mise à jour de la quantité, du nombre de vice-présidents de 3 à 5. Et on dit aussi que cela peut être transmis par courrier électronique, etc. Peut-être il faudra le changer. Trinité et Tobago, je ne sais pas s'il faut enlever le principe 34 alors pour trouver une solution au principe 35. Je veux être flexible, dit Thomas Schneider, parce que si on commence avec ces allers-retours, on ne va pas avancer. Michel, selon le principe 35, le principe 53, pardon, le processus après cette réunion, c'est que si l'on accorde de changer les principes et ces principes sont changés, il faut les distribuer pendant 60 jours. Cela veut dire que pendant cette période, on peut consulter, on peut voir quels sont les mots exacts, le texte exact. Et alors là, voir s'il y a des modifications pouvant affecter un autre principe. Je crois qu'on peut faire ce changement de 3 à 5 et je sais que à chaque fois qu'on fera référence au nombre, il faudra le modifier, mais c'est l'une des manières dont nous pourrons aller de l'avant. Il y a une période de consultation de 60 jours. On peut arriver à un consensus entre sessions et cette période finie, on va arriver à Buenos Aires avec un nouveau texte qui aura été accordé. Thomas Schneider, je vais poser une question. Cela veut dire que nous allons accorder aujourd'hui, au début, le changement, la décision sera prise dans 60 jours à la réunion, après les 60 jours à la réunion de Buenos Aires. On ne dit oui à rien du tout. La seule chose que l'on va faire, c'est analyser tout cela pendant la période de Pâques, etc. Et finalement, on va en parler et les approuver à Buenos Aires. C'est tout. Sinon, il y aurait une objection et on peut prendre la décision et en même temps, on peut commencer une révision générale. Et Michel va envoyer, jusqu'à ce que la décision soit prise, un document préliminaire pour être analysé pendant la période de 60 jours. Êtes-vous d'accord? Les États-Unis prennent la parole. Merci, Michel. Merci, Monsieur le Président. Je veux, avant de laisser de côté la question pour que ceci soit enregistré, je suis d'accord avec le commentaire de Manal de l'Égypte. Je crois, et je, si, Je sais que nous devrions peut-être créer un groupe de travail seulement pour se concentrer dans les modifications des principes opérationnels et voir tout ce qui est nécessaire pour les élections, parce que je crois qu'il ne faut pas tenir compte seulement de ce qui a été signalé pendant cette réunion. Et tout cela doit faire l'objet de notre attention dans un groupe de travail réduit. Il y a d'autres dispositions qui peuvent être ambiguës ou même bêtes parce qu'elles ont été effectuées il y a pas mal d'années. Mais elles peuvent être laissées de côté si elles ne sont pas directement liées à l'élection. Alors, je ne suis pas d'accord avec le point 1, 2, 3 selon ce que vous avez signalé, parce que cela n'a été pas révisé par le GAC, n'a pas été appuyé par le GAC. Alors, je suggère de revenir à la case numéro 1 et la proposition de Manal. On ne peut pas parler de faire des élections à moins que nous ayons tous précisé les dispositions applicables au vote réel. Thomas Schneider, merci. Je vais répéter. Si nous ne modifions pas les nombres, les chiffres, il va y avoir des élections. Nous aurons des élections. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les faire à cause des principes opérationnels. On va les faire. Vous avez raison de dire que lorsqu'on a décidé de l'établir, vous pouvez tous faire des commentaires pendant les 60 jours et faire les commentaires que vous voudrez. Parce que c'est votre droit, c'est le droit octroyé par la procédure. Nous avons décidé d'initier un processus pour prendre une décision pendant la prochaine réunion. On peut être d'accord sur ce point, à savoir, on a initié un processus. Il y a des objections à ce que je viens de dire. Non, OK, merci. Alors, maintenant, nous allons passer aux collègues. Eh bien, je vois l'ordre du jour. Maintenant, c'est l'équipe de la conformité de l'ICANN. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici. Nous avons essayé de parler avec le GAC à plusieurs reprises. Je m'appelle Maggie Sarr. Je suis vice-présidente de la conformité. Maggie Sarad, vice-présidente de la conformité contractuelle. Je voudrais vous montrer deux images tout simplement pour faire une mise à jour à vol d'oiseau et vous montrer où nous en sommes et où vous pouvez connaître davantage sur le travail que nous faisons et par la suite répondre à vos questions. Je vous demande d'aller à la diapo numéro 4. La première chose qui apparaît ici dans cette image, c'est une mise à jour des activités de 2014. L'équipe de la conformité contractuelle est présente à Singapour, Istanbul et Los Angeles. L'équipe a des membres très préparés avec beaucoup de compétences qui viennent de différents sites. Nous avons des gens avec l'expérience technique, juridique, commerciale, et il y a aussi une énorme diversité parmi nous pour pouvoir travailler et avoir ce que j'appelle un lien vers différentes personnes dans différents sites dans le monde. On parle 9 langues en tout, alors on peut communiquer, comprendre les différentes cultures avec lesquelles nous travaillons et en même temps maintenir l'approche de la conformité contractuelle. En ce qui concerne le contrat d'accréditation des bureaux d'enregistrement 2013 et le nouveau contrat de registre, comme je vous l'ai dit précédemment, l'équipe a été formée par les personnes spécifiques pour les mises à jour des systèmes. Et nous avons créé aussi, en plus des métriques, des modèles de planification. C'est quelque chose de très important pour pouvoir parvenir au respect de tout ce qu'on leur fait. Et cela dépend des obligations établies dans le contrat. Cela dépend des différents aspects du contrat. Et nous avons donc un modèle de communication de la conformité et une procédure. Nous avons également effectué des activités de diffusion externe, non seulement avec les parties contractantes, pour que tout soit en ligne et que tout le monde comprenne ce que c'est que la conformité, mais aussi organiser différents groupes avec différents membres de l'ICANN pendant les sessions de l'ICANN. Nous avons également fait la supervision proactive de ce que l'on appelle les engagements d'intérêt public et d'autres obligations. Conformité ne veut pas dire recevoir des plaintes sur le respect ou non, mais c'est d'aborder la question de manière proactive avec les différentes parties prenantes de la communauté et écouter les préoccupations et garantir le respect des termes du contrat. La question des engagements d'intérêt public ou PIC est une question vraiment importante dans la communauté de l'ICANN. Nous avons choisi 264 GTLD d'après le nouveau contrat de registre pour l'aborder de manière proactive. On a vu s'il respectait la spécification 11. Il y a eu aussi des rapports publiés que vous pouvez avoir reçus aussi. Ce que l'on a fait, c'est créer des recommandations de respect des statistiques et des tendances pour faire des changements de politique et les stratégies de mise en œuvre. On est basé sur l'amélioration continue, la nôtre, celle de notre processus et aussi celle de la communication. Nous avons participé et nous continuons de le faire dans un grand nombre de groupes de travail et d'efforts que l'on fait pour améliorer les attentes de l'ICANN et les efforts qui ont lieu en ce moment. En ce qui a trait à la responsabilité et la transparence, eh bien, c'est deux mots, très importants. Quand on parle de la conformité contractuelle, on donne un service à un grand nombre de parties prenantes très diverses au sein de l'ICANN. Et pour pouvoir donner ce service de manière adéquate, nous avons besoin de la confiance de la communauté. C'est une question clé pour nous. Il nous faut la confiance de la communauté et cela à partir du travail dans un processus permanent où l'on publie tous nos efforts, mais ce qui est le plus important, c'est que nous travaillons avec des décisions basées sur les faits. Nous disons non seulement, bon, moi, j'ai fait ça ou ça parce que c'est établi dans la conformité contractuelle. Non, nous faisons nos revisions, nous analysons des données, on met l'emphase sur ces efforts pour pouvoir aborder en équipe les questions liées au non-respect ou à un non-respect supposé basé sur les faits. Comment nous communiquons-nous avec le monde et comment on devient responsable et transparent? Il y a un programme d'audit qui a été démarré il y a 2 ans. Alors, on finit maintenant la 3e année. Il s'agit là d'un effort pour aborder un malentendu disant qu'il y avait beaucoup de mauvais acteurs. Et ce n'était pas l'idée. Maintenant, nous finissons la 3e année du programme d'audit et parallèlement, nous avons commencé un effort d'audit en vertu du nouveau contrat de registre. Vous pouvez aller dans le site web, voir les rapports qui ont été publiés. Nous, on publie une mémoire annuelle qui a trait à l'année civile et pas avec l'exercice financier. Dans cette mémoire, on résume toutes nos activités qui parlent de ressources, budget, activités et même tout ce que l'on a fait avec les registres et les opérateurs de registre. Avec les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre, pardon. Nous partageons avec la communauté ce que nous avons reçu, ce que nous voyons et quel est le traitement. Il y a un accord de niveau de service, le SLA, que nous analysons en permanence pour voir que l'approche soit, soit efficace et que le rapport soit transparent pour la communauté. Nous produisons toujours des métriques ou des instruments de mesure. Nous avons fait une présentation auparavant et nous vous demandons de visiter notre site web, non seulement pour ce qui a trait à la présentation de rapports et la mesure de la performance, mais aussi pour que vous voyez tout ce qui est inclus et savoir si vous avez des questions à poser. Dans la prochaine image, nous vous donnons des informations qui est extraite de notre rapport trimestriel, le rapport que nous présentons à la communauté. Là, on ne voit pas non seulement le volume de la conformité, mais des SLA que nous prenons comme base. Ici, dans cette image, j'arrête là ma présentation. Et maintenant, Alan, notre nouveau chef, il va continuer avec la présentation. Alan Grogan prend la parole. Merci, Maggie. Je m'appelle Alan Grogan, je suis le responsable principal de la conformité contractuelle et j'ai été désigné lors de la réunion de Los Angeles en octobre pour faire la supervision de la conformité contractuelle et de la sauvegarde. Je vais décrire mes fonctions. Fadi et le conseil ont créé ce poste de sauvegarde des consommateurs et de la conformité contractuelle et ceci au niveau de leadership mondial dans l'organisation parce que ces deux éléments servent à l'intérêt public depuis la perspective de l'ICANN. Pour ce qui est de la conformité contractuelle, on s'assure du respect de contrats, y compris les PIC, les recommandations du GAC et aussi d'autres types de dispositions qui se trouvent dans les accords. Du point de vue des sauvegardes des consommateurs, nous sommes ciblés sur les domaines où peut-être à partir du contenu des contrats, on ne peut pas avoir le droit pour obliger les parties sous contrat à prendre des actions ou des mesures qui seraient des problèmes complexes, difficiles à suivre et à résoudre, et la communauté a besoin de les résoudre. Alors, il faut donc que quelqu'un joue le rôle pour aider à tout cela. Bien de fois, on ne peut pas faire respecter spécifiquement ou exiger le respect d'un droit contractuel, mais nous essayons d'entamer un dialogue avec les membres de la communauté, avec les organes d'application de la loi, la société civile, les groupes qui s'occupent des libertés civiles, et nous travaillons collectivement pour trouver des solutions à nos problèmes. Et nous déterminons quel est le rôle que l'ICANN peut jouer, parce que peut-être il peut ne pas y avoir un contrat, mais nous pouvons passer cela à la partie qui correspond aux organismes de réglementation ou d'application de la loi. Et là, nous pouvons aider à donner des informations afin d'aider la communauté à accéder à ces autres acteurs. Alors, maintenant, j'arrête ici et je voudrais savoir si vous avez des questions à poser. Thomas Schneider prend la parole. Avez-vous des questions, des observations? L'Espagne demande la parole. Merci, Maggie et Alan, de votre présentation. Je voudrais poser une question par rapport à quelque chose que vous venez de mentionner, Alan. Dans les questions où vous, en tant qu'équipe de la conformité contractuelle de l'ICANN, vous ne trouverez pas une solution et vous devez faire appel à d'autres instances, comme les organismes d'application de la loi, par exemple, ou même des procédures pour le règlement de litiges ou des controverses. Dans ce cas, vous avez pensé à un exemple de ces situations dans lesquelles vous ne pourriez pas donner une solution dans ce cadre et que vous deviez faire appel à une procédure de règlement de litige, tout en ciblant l'attention, notamment sur les sauvegardes que nous, en tant que GAC, nous avons inclus dans la vie du GAC. Alan Grogan, reprend la parole. Je vais vous expliquer comment nous faisons respecter les engagements d'intérêt public qui résultent de l'avis du GAC et par la suite, je vais faire des commentaires plus généraux sur notre interaction avec d'autres membres de la communauté pour résoudre des problèmes. Du point de vue des PIC qui sont incorporés dans une pièce jointe à la spécification 11 du contrat de registre, ce qui est inclus justement dans la spécification 11 comme faisant partie de l'ICANN et des aspects liés au respect contractuel de l'ICANN, c'est qu'il s'agit de dispositions exécutables et contraignantes du contrat ainsi que d'autres. S'il y a quelqu'un qui présente une plainte, une réclamation et qui dit que l'opérateur de registre ne respecte pas les engagements d'intérêt public, alors la conformité contractuelle de l'ICANN peut entreprendre ou peut adopter des mesures pour le résoudre. Alors, on se communiquerait avec l'opérateur de registre, on peut faire une consultation, une notification sur ce que l'on soupçonne comme étant une infraction. On travaille en collaboration pour résoudre le problème. Dans ce processus, normalement, notre secteur de la conformité contractuelle de l'ICANN, nous avançons rapidement. La moyenne depuis le début de la réclamation jusqu'à la solution est de 11 jours. Récemment, nous avons fait cela, nous l'avons mesuré en décembre. Il y a une autre voie parallèle que l'on peut suivre après la plainte, à savoir à travers un pic d'ERP, c'est-à-dire un processus de règlement de litige lié aux engagements d'intérêt public. Voilà donc le processus qui peut prendre davantage de temps. Mais dans la plupart des cas, nous espérons pouvoir résoudre la question à travers les procédures que nous avons déjà mises en œuvre. Il y a certaines circonstances où le département de la conformation, de la conformité contractuelle fait des analyses des réclamations, mène une enquête, on considère que l'opérateur de registre n'a pas commis d'infraction, mais la partie qui présente la réclamation est en désaccord avec notre résolution à nous. Dans ce cas, alors, on peut initier le processus de PIC PEDRP qui impliquerait une consultation entre la personne qui réclame et l'opérateur de registre pour voir s'ils peuvent le résoudre à l'amiable. Et au cas où cela n'arriverait pas, ceci serait présenté à un panel permanent qui pourrait faire une recommandation sur les actions à suivre. Cela est séparé de ce qui est inclus dans le contrat et dans les PIC de la spécification 11 et dans la sauvegarde. Et comme résultat du programme de nouveau GTLD, il existe certaines questions qui seraient en dehors de la portée de l'ICANN. Bien des fois, nous recevons des plaintes ou des réclamations sur le contenu d'une manière ou d'une autre, à moins que cela viole des dispositions spécifiques du contrat ou des PIC. Eh bien, cela, on ne l'analyserait pas comme une question de conformité contractuelle parce que ça ne viole pas le contrat. Mais s'il y a quelqu'un qui dit que il y a quelque chose qui semblerait en quelque sorte une tromperie, alors on le dérive à l'autorité de régulation, de réglementation du pays en question pour représenter la réclamation ou la plainte et trouver une solution. Le département de la conformité contractuelle de l'ICANN n'est pas une entité de réglementation ni un organisme d'application de la loi mondiale. Alors, en quelque sorte, nous sommes limités quant à l'application de nos lois et de nos réglementations, mais on peut aider les parties intéressées à trouver cette démarche pour présenter leur plainte. Thomas Schneider, merci. D'autres questions, d'autres commentaires?
Yes, Mr. Chairman.
Oui. Merci. Je voudrais savoir en ce qui concerne les PIC, par rapport à un registre TLD au sein de l'ICANN. Comment on peut gérer un conflit entre les lois nationales et les PIC d'un registre agréé par l'ICANN? Alan Grogan prend la parole. C'est une question difficile à répondre. De manière abstraite, cela dépend des faits, des circonstances. Bien évidemment, les lois nationales vont toujours prévaloir sur nos contrats. Nous savons que les parties qui ont signé le contrat doivent respecter les lois et les réglementations en cours dans leur propre pays, en vigueur dans leur propre pays. Il y a des clauses dans nos accords avec les registres et les bureaux d'enregistrement qui les obligent à respecter les lois applicables, les lois locales applicables. Il n'y a pas souvent des conflits avec les PIC et les lois nationales, mais je sais que toutes les parties contractantes doivent respecter les lois nationales. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. La Thaïlande prend la parole. Je regardais le site web et je voyais les statistiques par rapport aux réclamations. Pourrait-on avoir les informations détaillées par rapport à statistiques pour savoir comment ces statistiques sont calculées? Parce que cela pourrait être en rapport avec les sauvegardes, notamment quand on parle du principe 11.3b où l'on fait référence aux menaces à la sécurité, les logiciels malveillants. Car il y a eu des réclamations spécifiques par rapport à ces aspects, à ces clauses. Il serait peut-être intéressant de voir s'il y a une sauvegarde, qui spécifie des actions immédiates à prendre lorsque un registre est informé de ces incidents de sécurité et que l'on décide de annuler un nom de domaine. Est-ce que ce type de réclamation peuvent faire l'objet d'un suivi? Alan Grogan prend la parole. Il y a plusieurs questions dans votre intervention. Je vais essayer d'y répondre. Il existe une obligation dans l'accord de registre, une obligation de surveiller les menaces de sécurité, comme par exemple le hameçonnage, le spam, etc. Le contrat en lui-même ne rentre pas dans les détails en ce qui concerne la fréquence dans laquelle ce type de surveillance devrait être mise en place ou par rapport à la façon dont cette surveillance devrait être appliquée. Nous avons donc un processus que nous avons mis en œuvre et qui fait l'objet actuellement d'une consultation publique pour essayer de créer un cadre qui permette d'établir les meilleures pratiques recommandées pour mettre en place ce type d'analyse qui nous permettrait d'identifier des cas de logiciels malveillants ou hameçonnage. Je pense qu'il peut y avoir une multitude d'approches différentes qui peuvent être adoptées par les registres. Certains d'entre eux pourraient appliquer ce cadre. D'autres ont déjà mis en œuvre des processus qui vont peut-être au-delà de ce que nous recommandons dans ce cadre sur lequel nous travaillons. Et effectivement, nous réfléchissons à la meilleure façon de présenter les statistiques. Le contrat de registre exige au registre de collecter des statistiques et d'en faire un suivi. Nous sommes encore dans une étape, dans une première étape, mais au fur et à mesure que l'on va avancer, on verra comment présenter ces statistiques. En ce qui concerne les réclamations par rapport à la violation des engagements de responsabilité publique, les PIC, nous avons présenté des statistiques par rapport à ces réclamations. Mais notre approche générale consiste à essayer de résoudre les problèmes, c'est-à-dire que les parties contractantes puissent respecter les accords. On les encourage plutôt que les punir. Nous essayons donc de les informer par rapport à l'existence d'un problème et on leur donne la possibilité de corriger ce problème. l'avis d'infraction n'est pas envoyé si les registres procèdent à la correction du problème. Après avoir travaillé en collaboration avec eux pendant un certain temps et après leur avoir envoyé 3 notifications, c'est à ce moment-là où nous leur envoyons l'avis d'infraction et c'est à ce moment-là où cette information est publiée. Quand cet avis d'infraction est envoyé à l'opérateur de registre. Encore une fois, même si nous publions ces informations, nous n'avons pas un détail des statistiques par type d'infraction ou par type de réclamation. Nous pourrions envisager de faire ce détail ou de travailler dans l'avenir. En ce qui concerne les PIC, dans le programme des nouveaux GTLD, nous n'avons pas eu des réclamations valables par rapport à la violation de ces engagements PIC. Ces PIC sont en général mis en œuvre par plusieurs registres. Il y a même des chaînes de caractères fortement réglementées qui se voient appliquer ce type d'engagement. Mais il n'y a pas eu de réclamation valable par rapport à cela. Thomas Schnado prend la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question courte? Autrement, nous vous remercions de ces informations très riches que vous nous avez données et nous espérons continuer le dialogue dans l'avenir. Merci beaucoup, Maggie Sarad. Merci beaucoup. Bonne journée. Thomas Schneider prend la parole. Nous avons maintenant une autre présentation de la société Arkitelos sur des aspects liés au marché des noms de domaine. Nous allons donner la parole à Alexa Arad de Arkitelos. Alexa Arad prend la parole. Merci beaucoup. Je vois que les diapos sont déjà affichés sur l'écran. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de vous parler de la question des abus par rapport au non-domaine. Il faut se demander ce que c'est, quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les situations qui amènent à un abus de non-domaine et quelles sont les pratiques pour lutter contre ce type de problème. Tout d'abord, il faut voir comment nous définissons ce que c'est que l'abus ou l'utilisation malveillante des noms-domaines. Nous allons donc vous fournir quelques principes de base pour que vous compreniez non seulement ce que veut dire que cet abus et comment il est mis en place. Puis nous allons prendre tous ces concepts pour voir quelles sont les meilleures pratiques qui ont été appliquées au fil des années, comment cette question d'utilisation malveillante des noms de domaine ont été gérées. Finalement, nous allons vous parler des composantes principales de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas dans un système d'atténuation de l'abus de noms de domaine. Nous devrions dire que l'abus des noms de domaine ou l'utilisation malveillante des noms de domaine est défini comme un ensemble d'activités qui visent les utilisateurs d'Internet à des fins malveillantes. C'est-à-dire qu'on essaye de tromper ces utilisateurs afin d'obtenir un bénéfice financier. Ce que l'on voit de plus en plus, c'est que ces activités sont mises en place par des délinquants par le biais de réseaux du crime organisé. On parle ici de botnet, de spam, de hameçonnage et de logiciels malveillants. Vous entendrez les experts en la matière qui disent qu'il y a des vecteurs d'abus. Cela veut dire la chose suivante. La façon dont ces délits sont commis au niveau des noms de domaine et la façon dont ces abus sont distribués, c'est en général par le courrier électronique dans le sujet du titre électronique. Et dans ces courriers électroniques non souhaités, les gens peuvent cliquer sur un nom de domaine qui l'amène à un site web où l'on peut essayer d'extraire des informations de l'utilisateur ou peut introduire un code malveillant qui s'installe sur l'ordinateur de l'utilisateur. Cela installe une attaque de podnet, c'est-à-dire d'ordinateurs qui peuvent empoisonner, entre guillemets, le cachet du DNS et diriger l'utilisateur vers un autre site web sans qu'il soit au courant. Et donc, le site web affiché semble être celui que l'utilisateur veut utiliser, mais ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça que l'attaque se fait, une attaque qui s'appelle farming. C'est ce que l'on appelle les vecteurs de l'abus. Diapo suivante, parlons un petit peu du spam ou du courriel indésirable. Y a-t-il d'abus au niveau du spam? Oui, il y a énormément de spam qui sont liés à des abus. Le problème, c'est que nous avons défini spam comme une activité abusive, car il s'agit de noms de domaine qui font l'objet de publicité par le biais de du spam et qui sont utilisés pour mettre en place des abus par hameçonnage, farming, etc. Il est intéressant de voir que 85% du courrier électronique du monde entier, c'est du spam. Il y a une étude en 2012 faite par Microsoft. Je ne trouve pas le nom de cette étude. Où l'on parlait du coût social du spam, combien cela représente en termes de filtre de spam et en termes de temps consacré par les sociétés pour essayer de filtrer tous ces courriers électroniques. Et ce coût est de 20 milliards de dollars par an. On ne parle pas d'une activité négligeable. Si l'on pense au spam, c'est comme si c'était une drogue qui ouvre la porte d'entrée à d'autres abus. On voit un exemple ici sur l'écran. C'est un courriel assez récent du 17 janvier où l'on dit, où on vous demande de faire clic, de cliquer sur cette adresse électronique. Donc, si vous ne faites pas trop attention, ça peut être une adresse légitime. Mais il y a quelque chose de bizarre. Amazon n'a pas de O. On n'écrit pas Amazon avec de O. Donc, si on fait clic sur ce lien, cela vous amène à une page qui ressemble à celle d'Amazon. Elle ressemble à la page d'accueil d'Amazon. Mais vous voyez sur la barre d'adresse que ce n'est pas le cas. On parle ici d'un abus par hameçonnage, car cela permet d'obtenir les informations des utilisateurs pour rentrer dans leur compte Amazon. Alors, il n'y a pas une seule variable qui détermine si un tel dé fera l'objet d'un spam ou pas. Je sais que la réponse n'est pas facile, mais la réponse correcte, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Il y a un prix faible qui peut attirer les délinquants parce que cela représente un encouragement économique, surtout quand il n'y a pas suffisamment de barrières. Après, les politiques d'enregistrement trop ouvertes, si ces politiques sont trop ouvertes ou ne sont pas suffisamment fermes, cela peut contribuer également à favoriser à court terme ou à long terme, des abus, ou bien une mise en place des politiques qui ne sont pas uniformes. C'est-à-dire une application qui n'est pas suffisamment ferme de la loi. Car si de temps en temps, il y a une amende pour un délinquant, cela n'est pas perçu comme quelque chose de ferme au niveau de la loi. Et ceci du point de vue des registres et du point de vue des bureaux d'enregistrement, parce qu'on a besoin des deux, du fournisseur et du canal de distribution. Je vais maintenant parler de certains aspects de base. Tous les abus n'ont pas la même origine, même si parfois, on parle de l'abus de manière générale. Il y a certains abus qui sont plus dangereux que d'autres. Je vais vous donner un exemple. Combien d'entre vous 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 souvenez du problème qu'a rencontré Sony? Vous vous souvenez du film Cela a été fait par un groupe qui s'appelle les Gardiens de la Paix et a permis de mettre en place des activités de hameçonnage pour obtenir des informations de Sony. Cela représentait un énorme dommage pour Sony car il y a eu des histoires confidentielles qui ont été publiées sur Internet. Donc, sur 40 attaques, il y en a 10 qui sont liées à des logiciels malveillants. On peut également changer la morphologie au fil du temps. Cette question, et cela nous ramène au vecteur de attaque. Comment ? Donc, créer les meilleures pratiques pour pouvoir lutter contre ce problème. Il y a, bien sûr, la possibilité de ne pas cliquer sur un courriel indésirable, mais si les gens ouvrent, par exemple, un courrier électronique qui envoie vers un site malveillant, au fur et à mesure que les gens cliquent sur ce site malveillant, cela peut représenter ou cela peut devenir un logiciel malveillant qui commence à distribuer un code malveillant dans les différents dispositifs. Et de cette manière, l'attaque devient de plus en plus dangereuse. Le point commun entre toutes ces attaques, c'est qu'elles commencent par enregistrement de noms de domaine. C'est pour cela que la mise en place, l'application de la loi, commence à regarder vers la source, c'est-à-dire l'origine de ces attaques qui commencent au niveau de l'enregistrement du nom de domaine. Ce que nous avons pu voir, c'est qu'un grand nombre de ces délinquants enregistrent un nom de domaine et puis l'utilisent pour mener à bien des activités malveillantes. Ensuite, ils laissent tomber ces noms de domaine et ils enregistrent un autre. Un autre principe, c'est que des différents niveaux de domaine de premier niveau ont des différents profils. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différents prix, différents modèles de business, différents critères de légibilité qui se traduisent dans des politiques différentes au niveau de l'enregistrement et différentes conditions de service. Nous avons des registres fermés, d'autres qui sont des registres ouverts. Et au niveau de la distribution, il y a des bureaux d'enregistrement très grands qui ont une distribution avec des revendeurs, alors qu'il y en a d'autres qui sont des registres eux-mêmes. Cela veut dire qu'il y a différents profils pour ces tels des deux côtés. On a les délinquants d'un côté qui ont des profils différents et les registres, les bureaux d'enregistrement ont de leur côté des profils différents. La prévalence de l'abus sur un tel dé ne veut pas forcément dire qu'il y ait une mauvaise gestion de la part du registre concerné. Ce qu'il est important de voir, c'est la façon dont on mesure ce registre pour voir s'ils sont responsables ou pas, pour voir s'ils mettent en place des actions d'atténuation de manière efficace et formelle au fil de temps. Mais encore une fois, si cet abus est ignoré, au fil du temps, le registre aura une réputation, une mauvaise réputation ou une réputation parmi les délinquants. Et donc, il va attirer ce type d'action malveillante. Il y a des modèles d'abus que l'on peut constater au fil du temps. Ici, vous avez un modèle, vous voyez, par mois et par jour. En règle générale, les spammers ont tendance à envoyer leurs messages les lundis. Ou bien, par exemple, près des vacances où les gens peuvent aller dans les magasins faire du shopping. Et donc, il y a davantage d'opportunités pour pouvoir mener des activités d'hameçonnage. C'est un point clé à savoir. Il n'y a pas un niveau permanent d'abus au fil du temps. Les spammers peuvent profiter des promotions qui peuvent être lancées par les registres et profiter de cette opportunité pour lancer leurs attaques. Donc, il y a beaucoup de différences entre les activités des spammers et ça peut changer jour par jour ou mois à mois. Diapo suivante. J'ai oublié de dire un aspect, une chose qui est très importante. Les méchants, si vous voulez, essayent de voir quels sont les points vulnérables des registres en faisant des tests sur les politiques et les opérations. Donc, c'est comme l'animal qui teste la clôture pour voir où elle est. Elle n'est pas ferme pour pouvoir sortir. C'est ce que font les méchants ou les malfaiteurs. Ils vont tester les points faibles des registres, des bureaux d'enregistrement pour voir où ils peuvent attaquer. Virtuellement, tous les TLD font l'objet d'un abus à un moment ou à un autre. C'est un moment inévitable. Le DNS a été développé pour pouvoir être scalable et pour être immédiatement disponible. L'effet secondaire de cela, c'est que quel que soit le TLD, il y aura un abus éventuellement. Ce n'est pas la question. La question est de savoir ce qu'on fait par rapport à cela. L'un des rapports qui a été publié récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous avons publié certaines questions par rapport à cela. Nous avons publié les cas d'abus pour 2014, abus de nouveau GTLD, et un quatrième du niveau de l'abus. Pardon, ils ont un quart des abus par rapport aux abus que l'on a pu constater avant. Donc, ça commence par le spam. Et maintenant, nous essayons de voir quelles sont les vulnérabilités ou les points faibles. L'atténuation de ces abus est très importante. Très souvent, c'est vu comme une charge, mais la réalité, c'est que c'est une assurance et pour les registres, qu'ils soient à but lucratif ou à but lucratif, c'est une assurance pour le flux de revenus. Et voilà ce qui se passe. Si vous n'agissez contre ces abus, la réputation de votre registre va en souffrir. Et il y a des listes de blocage qui commencent à inclure les TLD les plus vulnérables. Et donc, ces listes de blocage commencent à inclure tous les TLD dont il est connu qu'ils ont une mauvaise réputation. Et cela peut amener au blocage de votre TLD. Et cela par le biais de filtres de spam, etc. Donc, si un domaine commence à être associé avec des abus, il finira par être bloqué par certains filtres. Si l'utilisation de votre TLD est affectée, et donc les utilisateurs, quand ils vont compléter un formulaire avec leur adresse de courrier électronique et qu'à ce moment-là, ils voient que ce n'est pas accepté. C'est la même chose. Il n'y a pas une bonne réputation. Donc, au fil du temps, la réputation du registre sera affectée. Cela veut dire que le nombre d'enregistrements va diminuer et les renouvellements vont diminuer. Donc, c'est du bon business d'appliquer des mesures d'atténuation des risques. Si l'on voit les mesures d'atténuation des risques, j'ai essayé de vous montrer une perspective plutôt visuelle. Donc, c'est comme quand on pollue un fleuve. Plus vous arrivez à nettoyer cette pollution en amont, plus l'eau en aval sera propre. Et c'est la même chose ici. L'abus commence au niveau de l'enregistrement d'un tel des. Plus l'abus avance au niveau des sites web ou plus cet abus commence à infecter les dispositifs, moins ce sera facile d'appliquer des mesures d'atténuation parce que l'accident sera déjà en cours. C'est comme quand il y a un accident et que vous arrivez et que l'accident a déjà eu lieu. Donc, plus vous agissez près de la racine ou de la source, mieux c'est pour prévenir ou pour éviter d'affecter de plus en plus d'utilisateurs. C'est la clé des mesures d'atténuation d'abus. Les meilleures pratiques. On ne peut pas avoir une politique sans avoir des procédures qui soient à l'appui de cette politique. On ne peut pas dire que personne ne peut rouler à plus de 55 miles à l'heure et ne faire pas autre chose. Il faut mettre des panneaux, il faut apprendre aux gens qu'ils doivent rouler à certaines vitesses, etc. C'est-à-dire des moyens pour que les gens puissent être au courant de ce qui est mis en place. Il se passe de même ici. Il faut y avoir des procédures qui puissent être à l'appui de ces politiques et ces procédures doivent être cohérentes. Par exemple, des amendes pour les personnes qui roulent à plus de 55 kilomètres à l'heure ou miles à l'heure. Donc, la cohérence, c'est important pour qu'il y ait un apprentissage au fil du temps. Ensuite, comprendre ce qui se passe dans l'espace des noms de domaine. J'ai parlé un petit peu de cette surveillance continue et permanente. Et pourquoi nous pensons que la surveillance continue est la clé du succès? Mais on veut aussi utiliser plusieurs sources de données parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout ce qui vient, tout ce que vous recevez, parce que c'est là le problème. C'est le point d'abus. Il y a plusieurs sources de données qui constituent en fait la réputation de votre TLD. Si vous ne considérez pas cela, vous êtes en train de passer à côté de ce que les autres voient par rapport à vous. Les données ne sont pas suffisantes. Il faut pouvoir analyser ces données, établir des priorités, car tous les délinquants ne sont pas les mêmes. Vous aurez beau gérer ou essayer de lutter contre tous les délinquants tous les jours. Il faudra cependant essayer d'identifier quels sont les plus dangereux. Et puis, plus l'abus est traité en amont, mieux c'est. Si on peut remédier à un abus dans les 2 heures de l'attaque, c'est pas pareil que si l'on arrive à pouvoir agir un jour après, car le dommage sera là. Quelles sont les meilleures pratiques? Les politiques doivent être cohérentes. Il faut établir des procédures et des processus qui puissent mettre en pratique ou mettre en place ces politiques de manière cohérente. Il faut posséder des moyens pour pouvoir identifier les abus, analyser les données et établir des priorités. Et vous devez être en mesure de pouvoir notifier les parties concernées. Parfois, c'est les titulaires, parfois, c'est les bureaux d'enregistrement ou les registres. Il faut pouvoir mettre en place des mesures qui peuvent aller de la suspension d'un nom de domaine jusqu'à l'annulation d'un nom de domaine. Vous devez également, on a entendu l'ICANN parler de la documentation, il faut obtenir de la documentation pour deux raisons, pour donner aux autres, mais aussi pour pouvoir donner aux autres cette documentation. Oui, cela coûte de l'argent, mais l'atténuation des risques coûte de l'argent. Mais c'est quelque chose de positif pour votre business. Donc, plus vous avez des indicateurs de la documentation, mieux c'est pour votre business. Et du point de vue juridique, la protection des registres est importante, car si un registre vient vous dire comment ça se fait que vous avez suspendu mes activités dans deux heures, et il faut pouvoir leur dire on a appliqué les mesures que l'on applique à tout le monde. Il faut qu'il y ait des mesures de remédiation et de recours, parce qu'il faut posséder des mécanismes d'itération à partir de feedback que vous pouvez obtenir. Voilà ce que nous considérons comme étant la base d'un système d'atténuation d'abus efficace. Vous avez en bas les principes, c'est-à-dire la sécurité des utilisateurs finaux, mais ces principes doivent se traduire par certaines politiques. Ces politiques établissent des lignes directrices par rapport à la façon dont les choses vont être mises en place. Si vous avez des principes de transparence et de responsabilité et la protection des utilisateurs finaux, il faut avoir des politiques qui puissent refléter ces principes. Vos politiques en matière d'abus doivent suivre ces principes et ces politiques. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut également mettre en place des processus et des procédures, ou prévoir des processus et des procédures qui vont vous aider à mettre en place ces politiques de manière cohérente. Ces procédures ne peuvent pas être en contradiction ou en concurrence. Pour pouvoir mettre en place ces politiques, il faut donc avoir des procédures, par exemple, une procédure pour valider le quiz, une procédure pour mettre en place une suspension, une procédure pour documenter, pour annuler un nom de domaine. Et ces procédures doivent être distribuées ou doivent être détaillées pour voir quelles sont les exceptions et quelle est la manière de les mesurer. Donc tous ces éléments doivent travailler en accord pour pouvoir arriver à une politique d'atténuation correcte. En ce qui concerne la détection de données, il y a beaucoup de sources et il faut choisir plusieurs sources d'informations ou de données. Certaines sources font des rapports par rapport à un certain type de données, mais non pas par rapport à toutes les données. Quand on travaille en coopération avec deux sources différentes, c'est beaucoup plus positif, parce que si deux sources différentes vous indiquent qu'il y a un problème avec un certain TLD, cela vous donne davantage de raisons pour savoir qu'il faut agir sur ce risque. Et vous savez donc qu'il y a une collaboration indépendante.
Il faut comprendre qu'une fois de plus, si l'on a de multiples sources de données, il y a quelque chose de plus important, parce que pas tous les fournisseurs de données, pas toutes les listes de blocs vont nous donner toute l'information que nous leur demandons. Les données que nous recevons doivent avoir des mécanismes de validation pour réduire les faux positifs. Valider ces données et valider les abus, ce n'est pas la compétence des registres. C'est ce que font en général les fournisseurs des données. Alors, dans certains cas, c'est mieux pour eux de faire la validation avec un tiers plutôt qu'avec le registre lui-même. Parce que le registre va éliminer ou le registre et peut aussi prendre des mesures correctives. Il y a aussi les données des sources des organismes d'application de la loi. Il faut donc établir une priorité pour l'analyse et aussi pour comprendre et voir comment toutes ces données seront gérées. Une fois de plus, il doit y avoir des processus et des procédures, un flux de travail qui donne du soutien à tout ce que je viens de mentionner. Je vais aborder un peu la question du monitoring et de l'évaluation périodique. Je vais parler d'un monitorage continu par rapport à l'échantillonnage afin de simplifier la question. Tous les types d'abus sont pareils si l'on suppose que tous les types d'abus sont pareils, alors cela sera incorrect. Ceci n'est pas, il n'y a pas de corrélation entre les différents types d'abus. Je vous ai montré comment cela peut commencer avec un spam le lundi et alors vendredi, cela peut se transformer dans une situation tout à fait différente, une attaque de hameçonnage complet. Et si lundi, on a perdu ce qui s'est passé, on va le voir vendredi. Il y a donc d'énormes variables pour les types d'abus, même la gravité du hameçonnage. Pour que l'échantillonnage fonctionne, on a besoin d'un échantillon si grand que l'on fait pratiquement un monitorage continu. Parce que la courbe de distribution n'est pas normale. Alors, du point de vue visuel, nous avons ici ce qui se passe au cours de 12 mois. Si nous prenons des échantillons de différents sites, nous pouvons avoir des résultats très différents. La ligne rouge montre que cela est fait pendant 15 jours en janvier et puis 15 jours vers la moitié de l'année. Je crois que c'est janvier et juin. Alors, nous allons voir des résultats très différents. Et aussi, avec le monitorage périodique ou l'échantillonnage périodique, ce n'est pas quelque chose que l'on puisse exiger. C'est tout simplement pour avoir une idée de la dimension du problème. Mais cela ne sert pas pour appliquer des mesures quelconques. Il faut donc faire une analyse et établir les priorités pour aborder les questions les plus urgentes en premier lieu. Analyse veut dire que l'on établit des corrélations et des relations. Si un bureau d'enregistrement en particulier est la source de 30% des problèmes d'abus que vous voyez, vous pouvez aller lui parler et s'occuper de ce 30% des cas d'abus que vous avez identifiés. Alors, la corrélation est vraiment importante. Il y a une adresse IP en particulier. Vous pouvez faire le suivi de cette adresse IP associée au nom de domaine. Et si vous savez que c'est l'adresse qui pose des problèmes, qui vous amène à un serveur de nom, alors là, vous savez que peut-être il peut y avoir un ISP, un fournisseur de services Internet, qui est affecté par ces abus. Vous pouvez donc passer un coup de fil pour résoudre les problèmes. Il est important donc d'établir ces corrélations et d'avoir une bonne réputation, bien entendu. L'exemple d'Amazon pose des problèmes. Alors, il peut y avoir une règle qui dise s'il y a quelqu'un qui essaie d'enregistrer Amazon avec deux O, peut-être je ne mets pas ça à disposition. Je n'habilite la question une fois avoir vérifié qu'il ne s'agit pas d'une activité malveillante. Une fois de plus, la vérification de l'abus, c'est quelque chose qui n'est pas de la compétence centrale des registres, par exemple. Tout ce qui a trait à la pornographie infantile doit être analysé par des experts externes. Mais il est important, du point de vue des faux positifs, de voir ce qui se passe au niveau des fournisseurs. C'est ce que l'on fait toujours, ce type de vérification. Ici, vous voyez un schéma simple à la base. On a la détection. Il y a un grand nombre de courants de données qui nous donnent des informations. Mais peut-être cela ne sera pas suffisant pour déterminer les faux positifs. Avec l'analyse, nous essayons de dériver des informations sur ces données afin de nous aider à établir des priorités. On enlève les faux positifs, on compare les tiers indépendants. Par la suite, on ajoute des connaissances. Nous pouvons voir quelles sont les relations que l'on peut établir et puis on peut faire des efforts de réduction ou de mitigation. Quel est le coût? C'est quelque chose que l'on fait pour une question commerciale. Deuxièmement, les registres responsables ont déjà planifié cela. C'est une partie de leur spécification, de leur candidature, de leur réseau, de leur contrat. Et alors, ils doivent inclure les plans qu'ils ont pour aborder la question. On peut le faire par soi-même ou sinon, on peut le sous-traiter. Un registre moyen peut donner à temps partiel à une personne avec des connaissances en la matière pour travailler avec toute la question de l'abus. Ou bien, on peut faire la sous-traitance du service. Il y a des sociétés qui fournissent ce genre de service et le coût est de 250 à 400 dollars par mois. Il y a des questions qui sont disponibles du point de vue commercial, qui offrent des services qui impliquent des coûts de 250 à 400 dollars par mois. Alors, de ce point de vue, il y a différentes solutions possibles. Le faire soi-même, le sous-traiter, et bien des fois, le coût est prohibitif. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Avez-vous des questions à poser? Thomas Schneider, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de la séance, mais nous avons le temps pour certaines questions. L'Indonésie prend la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est très intéressant. Votre présentation a été très intéressante. Pour nous, en tant qu'organisme de réglementation, pour être prudent avec ces questions, avec ces situations, je voulais savoir pourquoi il y a tellement de délinquants qui sont dédiés à ça. C'est une question économique, c'est pour s'amuser, parce que je ne crois pas que tout le monde fasse ça pour rigoler, hein, chercher dans les poches des autres. En général, on nous vole pour, c'est-à-dire on veut voler l'argent, le passeport. Et comment pouvons-nous établir des réglementations pour prévenir cela? À Singapour, par exemple, dans beaucoup de pays, comment faire pour réduire les délits en leur donnant de l'argent pour qu'ils ne volent plus, pour que le monde soit plus pacifique? Non. Alors, on peut dire, eh bien, si vous voulez de l'argent, venez au gouvernement et on vous donne l'argent. Comment on fait? Alex Arad, oh, si c'était si facile que ça, je crois que vous pouvez répondre à la première question mieux que moi, puisque vous appartenez au gouvernement. Mais un grand nombre de ces délinquants ne sont pas les gosses de la secondaire qui font cela au sous-sol pour s'amuser, tout simplement. C'est une activité de plus en plus sophistiquée, de plus en plus organisée. Il y a des réseaux de prostitution et la motivation, c'est l'argent. Nous voyons de plus en plus l'espionnage parrainé par les États. Il y a des botnets, command control, pour faire de l'espionnage, pour savoir des activités d'autrui ou pour endommager les structures d'autres pays. Essentiellement, il y a plein de raisons pour ce type d'activité. Alors, il est important de rappeler que si vous, de manière constante et uniforme, vous appliquez toujours la même mesure à chaque fois que vous essayez d'aller dans le périmètre de manière constante, il y a quelque chose qui vous indique que cela ne va pas fonctionner. Alors, enregistrez ce nom de domaine, mais vous l'annulez immédiatement. et puis le deuxième aussi, le troisième aussi. Ces gens ont une capacité d'apprentissage énorme. Alors, ils ne vont pas essayer de la même chose deux ou trois fois de suite. Et ceci m'amène au deuxième commentaire. Vous devez apprendre où est-ce que vous êtes attaqué. Alors, vous devez aller de l'avant. Les avancer. Notre membre du GAC prend la parole. Peut-être que les faibles prix des domaines contribuent au problème. Oui, le prix, c'est une des variables, mais ce n'est pas la seule variable parce que vous pouvez avoir des prix très réduits pour les noms de domaine. Mais si, d'autre part, tout ce qui a trait à l'application des mesures implique l'annulation de ces noms qui sont enregistrés. L'encouragement économique, c'est une partie. Mais si le prix est très réduit, s'ils n'arrivent nulle part, s'ils ne peuvent pas avancer, ils n'ont plus d'encouragement économique, ces délinquants. Ça peut paraître attrayant, mais en fait, on n'arrive nulle part en envoyant une attaque de hameçonnage dans ce cas. Thomas Schneider, merci. Une autre question, la Thaïlande. La Thaïlande prend la parole. Puisque nous pouvons avoir au GAC la fonction de répondre aux intérêts et aux commentaires publics sur les cadres de sécurité, ce sont des questions que nous avons renforcé dans notre communiqué avec ces deux mots que l'on a mentionnés dans la présentation. Tout d'abord, les protocoles comparables à ceux que nous avons signalés comme des sauvegardes. Et puis, il y a aussi l'atténuation. Nous utilisons le mot « prendre des actions immédiates ». Voilà la phrase que nous utilisons. Je crois que tous les membres du GAC, on doit faire une révision de la question, voir où on peut arrêter les faux positifs. Et il faut en parler aux organismes d'application de la loi parce que c'est eux qui pourront peut-être rétablir des sanctions comme la peine de mort pour le cyberespace. Alors, comment parvenir à un équilibre, avoir la perspective de la politique publique dans le cadre juridique local et peut-être avoir une meilleure définition de ce que nous appelons l'action immédiate, n'est-ce pas? Parce que cela peut différer d'un pays à l'autre. Nous devons donner nos contributions, quelque chose de sécurisé au lieu d'avoir des termes génériques où l'on ne peut pas voir le respect et la supervision de la conformité contractuelle. Il faudrait évaluer les meilleures pratiques. Merci. Thomas Schneider, merci beaucoup. Nous finissons maintenant notre réunion, à moins qu'il y ait des commentaires ou des observations supplémentaires sur n'importe lequel des sujets que nous avons inclus dans nos activités. L'Argentine prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Félicitations de votre tâche. J'espère vous voir à Buenos Aires. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les sites à visiter, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je vais vous aider avec plaisir. Thomas Schneider, merci beaucoup. La Thaïlande prend la parole. Wanawit, je vais prendre la liberté de vous dire la chose suivante. Beaucoup parmi nous, nous célébrons le nouvel an chinois. Alors, comme on vous a dit, joyeux Noël à tous ceux qui appartiennent au monde occidental. Ici, on est en Asie Pacifique et j'espère que vous ayez tous un bon début de l'année, l'année de la chèvre, et que vous ayez beaucoup de prospérité. Je le dis aussi en termes de la Chine. Thomas Schneider, merci beaucoup. Nous finissons donc notre réunion. Merci beaucoup de votre travail si constructif. Ça a été un plaisir pour moi et nous voulons remercier les interprètes de leur travail. Nous utilisons leur service avec plaisir et merci beaucoup au secrétariat qui a travaillé aussi bien ici que en arrière de la scène tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine.